Aline. Dans un premier temps, je n'ai rien remarqué. Sans doute parce que j'étais en retard. Il était 3h10 et j'avais promis à Camille de venir la chercher à la bibliothèque à 3h. J'avais perdu un temps fou à faire la queue au Monoprix, alors je me suis engouffrée dans la voiture avec mes sacs de courses sans voir la dame. Mais ensuite, bien sûr, dès que j'étais assise derrière le volant, il n'y avait plus moyen de l'ignorer. Elle était appuyée contre le capot, juste là, devant mes yeux. Pas une seconde, je ne l'ai prise pour une clocharde ou une SDF. C'était impossible. Elle avait une allure autre. D'abord, elle était bien habillée. Elle portait un joli ensemble en coton rouge. Mais c'était surtout sa façon de se tenir. Elle n'était ni assise ni affalée. Elle s'appuyait contre le capot comme si... Je ne sais pas le dire autrement. Comme si elle en attendait un soutien moral. Je jette un coup d'œil à ma montre. Ce qui est idiot parce que je viens juste de la regarder, elle indique toujours 3h10. Je pense à Camille qui m'attend et, un peu méchamment, je tourne la clé de contact pour faire démarrer la voiture, pensant que la dame va sursauter et s'en aller en faisant des gestes pour s'excuser. Mais non. Elle reste dans la même position, exactement. Alors je klaxonne. Doucement, plusieurs fois, comme ça, tut-tut-tut-tut-tut-tut, comme quand on essaye d'avancer dans une rue où les gens font la fête. Mais elle ne bronche toujours pas, ne tourne même pas la tête, et je comprends qu'il y a quelque chose. Aussitôt, Camille repasse à l'arrière-plan de mes préoccupations. Même si la bibliothécaire m'a prévenu tout à l'heure d'un air pincé que la bibliothèque n'était pas une halte-garderie. Et cette dame inconnue vient s'installer au premier plan. Je descends de la voiture, referme la portière et m'avance jusqu'à elle. « Madame ?» Elle me regarde. Une femme entre deux âges, avec une vraie distinction dans l'allure. Tout sauf une clocharde, effectivement. On la situerait plutôt comme prof de fac ou alors actrice vieillissante. Mais ce qui me frappe surtout, c'est qu'elle est totalement ailleurs. Elle a les yeux absents et le visage ravagé. Égarée. Vous n'êtes pas bien ? Elle me regarde toujours, droit dans les yeux, et ça me glace le sang. Je n'ai jamais été regardée de cette façon, et j'espère ne pas l'être une deuxième fois. Elle me regarde comme on regarde la pluie de la fenêtre d'un train. Ça n'appelle pas de commentaires. C'est la tristesse banale et irréfutable. Il n'y a pas d'échange. On ne songe pas à adresser la parole à la pluie. On la voit, on la constate, et elle vous désespère. C'est tout. Je ne sais pas quoi faire. J'ai quelques notions de psychologie, mais une souffrance qui vous enferme derrière de tels murs, je ne sais pas par quel bout la prendre. Cette femme a besoin d'aide professionnelle, c'est pas tant. Et à cet instant, dans cet échange de nos regards asymétriques, le mien plein de soucis, le sien morne et mort, commence un enchaînement dont je sais avec certitude qu'il la conduira derrière des murs réels. Je vais dans le café le plus proche et demande qu'on appelle la police. Ensuite, je sors de la vie de cette femme, de façon aussi discrète et aussi fortuite que j'y étais entrée. Je ne saurais jamais qui elle était.
Robert. Installé dans la véranda à l'arrière, je lis le journal tandis que Maya joue son cher Gibbons. On a écoulé ainsi des après-midi sans nombre. Il ne se passe strictement rien d'anormal. Et pourtant, quand le téléphone sonne, il allume un incendie dans mon cerveau. D'ici quelques minutes, je le sais sans l'ombre d'un doute, mon mauvais pressentiment va s'embraser en catastrophe. Maya le sait aussi, puisqu'en entendant sonner le téléphone, elle cesse de jouer et se précipite pour y répondre, ce qu'elle ne fait jamais si l'un de nous est là. Elle écoute un court instant et je vois son visage s'illuminer. « On a retrouvé maman !» s'exclame-t-elle. Ah, elle la savait donc perdue ? Et de me tendre le combiné d'un air jubilatoire. À partir de là, j'ai le sentiment incoercible de jouer dans une pièce de théâtre. Je prononce les répliques qui ont été rédigées pour moi longtemps à l'avance par un auteur sadique. Je dis que oui, je suis bien Monsieur Mestral. Oui, le mari de Lara Mestral. Et, d'une certaine façon, Je n'ai jamais été autant son mari qu'en cet instant. Je réponds à plusieurs autres questions faciles, factuelles. Enfin, je note l'adresse de l'hôpital où on vient de la conduire.
Maya. Maman. Oh, que je suis heureuse de te retrouver. Maintenant, tout ira bien. Tu vas voir. Je viendrai te rendre visite tous les jours. Maman Motchka, je t'aime, tu sais. Tu n'as pas besoin de parler si tu ne veux pas. C'est pas grave. Je comprends. Regarde, je t'embrasse les mains. Je te serre dans mes bras. Je vais te raconter mille et mille histoires.
Robert. Une fois effectuées les formalités du transfert de l'hôpital à la clinique, j'ai laissé Maya avec sa mère et je suis allé dans le couloir discuter avec le médecin psychiatre. Je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que nous étions revenus 10 ans en arrière. La même chambre blanche, sans fenêtre, éclairée à la lumière artificielle. Partout, des médecins et infirmières vêtus de blanc, leurs pas rapides dans le couloir, leurs conciliabules à voix basse, la tête penchée et le regard inquiet. Retour à l'aube. Retour à la case départ avec des malades mentaux à la place des enfants prématurés. Les limbes à nouveau. L'angoisse à nouveau. Inscription hasardeuse dans la marge, griffonnage, gribouillis, hors du texte officiel, sagement imprimé. Lara paraît tout à fait paisible, elle est consciente de notre présence, elle nous reconnaît, simplement, elle ne parle plus. Pour clouer le bec à l'inconnu, aux innommables contorsions de l'âme humaine, le psychiatre me dit dans son jargon le nom de cette pathologie. En gros, si j'ai bien compris, ça se résume à de l'épuisement mental. Nous voilà bien avancés. Il dit que Lara va faire une cure de sommeil, qu'elle a déjà entamé un traitement médicamenteux lourd. Voilà, sans doute, pourquoi elle a l'air si paisible.
Maya. Tu es moi. Tu es ma mère. Quoi que tu fasses, je te laisserai pas tomber. Ne parle pas si tu veux. Prends ton temps. Il me fait pas peur le silence. C'est toi qui m'as appris comme il peut être beau et comme la musique en a besoin. Tu es la musique, Maman Motchka. Alors c'est normal que tu aies besoin de silence. Prends-en, autant que tu veux. Je suis là avec toi.
Quand tu inspires, mes poumons se gonflent d'air. Et quand tu ris, mon cœur est à la fête.
Oh, je sais, tu ne ris pas encore, mais ça ne saurait tarder. Tu peux compter sur moi. Tous les jours, je viendrai. Je te parlerai et... on s'en sortira, je te le jure. Elle est pas mal, cette clinique, je trouve. Elle est dans un quartier que je ne connaissais pas avant. Il y a des grands arbres, des marronniers. Leurs feuilles commencent déjà à tourner, alors qu'on est qu'au tout début septembre. J'aime bien les voir tourner. Avant qu'elles deviennent toutes brunes et rabougries, c'est du jaune qui apparaît sur le vert dans un motif géométrique. On dirait un tableau abstrait. Chaque feuille un tableau différent. Maya. Je suis allée chez Lucien hier. Il était en train d'envelopper ses 3 petits seins pour les amener à l'église qui les avait commandés. C'est pas très loin, à 1 petite heure d'ici. On ira les voir ensemble quand tu sortiras. Lucien était fier du résultat, t'aurais dû le voir. Il dit qu'on sait jamais à quoi ça va ressembler, un vitrail. Pendant des semaines, on travaille dans le noir. Il y a la peinture, la cuisson, le montage, la soudure. Le masticage, la pose, c'est seulement à la fin qu'on voit l'effet que ça va faire. Il dit que c'est comme une grossesse. Le petit bébé lui aussi grandit dans le noir, on attend, on espère que tout va bien se passer, puis à la fin, c'est génial. Il te fait dire un grand bonjour, Lucien. Il demande chaque jour de tes nouvelles. Il est jaloux de moi parce que lui n'a pas le droit de visite. Il t'aime, Mamotchka. Moi aussi, je t'aime. Tu vas voir comme il est fort, mon amour. Tu vas voir. Benjamin m'a encore montré sa boîte de verre à soie. Et ça y est, les papillons qu'on n'avait pas tués sont tous sortis de leur chrysalide. Qu'est-ce qu'ils sont moches ! Benjamin m'avait prévenu, mais ça m'a quand même étonnée de voir comme ils sont moches alors que leur chrysalide de soie était si jolie. Benjamin va rentrer chez lui après-demain, et moi, il faut que je retourne à l'école. J'entre en 6e, tu te rends compte ? Puis dans 15 jours, papa m'amènera à Berlin pour ma première vraie leçon avec Dianescu. Je te raconte tout, promis juré. Je te dirai s'il se cure le nez en m'écoutant et si son portable sonne pendant les leçons. De toute façon, il ne peut pas être meilleur professeur que toi. C'est impossible. Tiens, il y a plein de tes élèves qui ont téléphoné pour prendre de tes nouvelles. Tes collègues aussi. Tout le monde te fait dire de bien te reposer et puis de revenir vite parce que tu leur manques. Je t'écoute, maman, tu sais. Même si tu penses ne pas parler, je t'écoute très fort. Les vrais musiciens savent déchiffrer le silence. C'est toi qui me l'as appris. Tu m'as appris tout ce que je sais et tout ce que je ne sais pas au sujet de la musique. Les 88 notes du clavier et puis les 100 millions de constellations dans l'univers. Chaque note une étoile et toi aussi, étoile, ma petite étoile. J'ai besoin de toi, Mama Mochka. Maya, j'espère qu'on est gentil avec toi ici. J'espère qu'on te chouchoute. Papa est plutôt nul comme cuisinier. Tout ce qu'il sait faire sans le rater, c'est les spaghettis. Mais il fait des efforts. Hier soir, il s'est lancé dans un ragoût de mouton. C'était complètement immangeable, mais bon, c'est pas grave. Au moins, quand je me moque de lui, il le prend bien. Tu te souviens comme Babouchka nous faisait des bons petits plats autrefois? Tu te souviens de ses choux farcis, et de ses soupes aux choux, et de ses choux en saumure, et de ses choux râpés, et de ses blinis aux choux, et de ses choux braisés? Et comme la cuisine puait l'ail toujours, à cause de ses éternels remèdes pour le cœur. Aïe aïe aïe! Tu te souviens comme elle disait? Aïe aïe aïe! Et nous on riait, on se tenait le nez et on disait aïe aïe aïe! Elle te manque ta maman? Tu es triste parce qu'elle est morte? Il ne faut pas être triste, maman. Les enfants sont là pour consoler leurs parents. Lucien m'a raconté l'histoire de la petite sainte qu'il a envie de peindre maintenant. Elle s'appelle Paul-Elisabeth quelque chose. C'est une Italienne. À 20 ans, elle a été mariée de force à un vieux comte de 60 ans qui avait une passion pour la musique. Et tous les soirs, pendant 18 ans, il l'obligeait à assister à des concerts assommants, à en devenir folle. Elle a eu 3 enfants, mais 2 sont morts petits et le mari était tellement jaloux du troisième, un fils nommé Charles, qu'elle a dû le mettre en pension. Puis enfin, le mari est mort. Mais malheureusement, peu après, le fils aussi. Et Paul-Elisabeth a tellement pleuré à son chevet que Charles est venu la consoler. Il lui a dit « Ne t'inquiète pas, Dieu va t'envoyer d'autres enfants. » Elle avait du mal à le croire, mais c'est bien ce qui s'est passé. Elle s'est mise à adopter des orphelines. 2 d'abord, puis d'autres, et encore d'autres, et pour finir, il y en avait des centaines. Tout son château grouillait de fillettes. Tu vas voir comme le vitrail de Lucien sera fantastique, avec ses ribambelles de gamines qui s'accrochent au lustre et qui glissent sur les rampes des escaliers. Quand il m'a décrit les concerts qu'on infligeait à la pauvre Paul-Elisabeth, ça m'a rappelé l'histoire d'Yvan avec son violon magique que Babouchka m'avait raconté une fois. J'ai dû m'endormir avant la fin, je crois. Je sais pas ce qu'il devient, Yvan, après avoir mis en rage Maître Gripsou en le faisant danser au milieu des ronces. À propos de ronces, tes roses vont bien. Il y en a qui sont finies pour la saison. Elles ont explosé comme des feux d'artifice, mais en douceur, sans bruit. Elles t'attendent, maman. Et tes delphiniums aussi. Patiemment. Pourquoi se presser? La musique se dépêche d'aller nulle part, oui, à cette vitesse. Voilà ce qu'elle me disait, Babouchka, quand je jouais trop vite. Il y a un tempo juste et un seul, elle disait. Maya. Il fait froid ici, je trouve. Ils ont mis l'air conditionné trop fort. Des stalactites vont bientôt commencer à me pousser au doigt et au nez. Tu n'as pas envie qu'on parte ensemble dans un pays chaud, toutes les deux? On pourra aller en Inde, par exemple. Ou aux Antilles. Ou aux Antipodes. Les Antipodes et les Arthropodes s'en vont en bateau. Tu ris toujours pas, maman? Ça veut dire quoi, au juste, pod? Tiens, je t'ai apporté un dictionnaire aujourd'hui. Tous les mots se trouvent là-dedans. On n'a qu'à les chercher. Regarde. Je t'en prie, accroche-toi, regarde. Voyons. Pod, pod. Podophtalme, qui a les yeux placés en haut d'un pédoncule. Ah oui, d'accord, je vois. Benjamin m'a parlé d'une mouche de la Nouvelle-Guinée, le quelque chose Rothschild, ça s'appelait. Les mâles, ils ont les yeux pédonculés aussi longs que leur corps, et ils essaient de se faire peur avec. Ceux qui ont les pédoncules courts sont terrorisés par ceux qui ont les pédoncules longs. Dès qu'ils les voient arriver, ils prennent leurs pattes à leur cou et déguerpissent. C'est fou ce qu'ils peuvent être bêtes, les hommes, tu trouves pas? Tu entends, Mamochka? Tu m'entends quand je te parle? Tu es là, n'est-ce pas? Tu vas vivre, n'est-ce pas? Voyons. Tu sais ce que ça veut dire, coque-cigrue? Eh bien, c'est un mélange de coque, de cigogne et de grue. Même les choses qui n'existent pas sont dans le dictionnaire. On pourra en inventer d'autres. Le chat chicheux, par exemple. Croisement entre le chat, le chien et le cheval. Non, c'est pas très bon. Attends, ça y est, j'ai trouvé. Le moulipa. Croisement de moustiques, de libellules et de papillons. Ça, c'est pas mal. Le moulipa. Je l'adopte. Je suis ta petite moulipa qui t'adore. Maman? Réveille-toi, s'il te plaît. Je sais que tu ne dors pas, mais réveille-toi. Je n'en peux plus de te voir comme ça. Parle-moi. J'ai besoin de toi. Regarde-moi. Reviens, je t'en supplie. Réveille-toi.
Docteur Fabien. Comment ça va aujourd'hui, Madame Mestral? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Sauf imprévu, votre fille est tirée d'affaire. Elle est arrivée à terme plus 15 jours, elle pèse un bon poids et elle coordonne à merveille les trois fonctions. La succion, la déglutition et la respiration.
Moulipa.
Moulipa. Je croyais que son nom était Maya. Toujours est-il qu'à partir d'aujourd'hui, elle devrait pouvoir vivre normalement. Je dois vous avouer que je ne m'y attendais pas. Si elle s'est accrochée à la vie comme une forcenée, c'est en grande partie grâce à vous, grâce à votre présence constante à ses côtés, et à l'appel que vous avez su lui faire entendre. Je peux maintenant vous dire que dans ces circonstances, peu de mères ont cette force-là. Je vous félicite, Madame Mestral. Vous pouvez ramener votre bébé à la maison en toute confiance.